que ça a été rédigé avant Genèse 1. Alors, formellement, le texte est anonyme. Certains estiment que le reste de la Bible nous conduit à penser que c'est Moïse qui l'a écrit, mais je ne pense pas que les indices bibliques soient contraignants. Bon, ça peut se discuter pendant des heures, hein. Donc, je pense qu'il faut laisser ça anonyme. L'idée qu'il y ait plusieurs sources, tout ça, ça ne cause pas de problème herméneutique, mais on n'en sait strictement rien. Ce qui est certain, c'est que l'ensemble a été repris, même si c'était deux textes différents, dans une logique d'ensemble qui est, elle, vraiment cohérente et intelligente. Cela dit, comme je n'interprète pas Genèse 1 de manière littérale et Genèse 2 non plus, en tout cas pas en entier, je ne pense pas qu'il faille les opposer comme certains le font. Je pense que lors de la création de l'homme par rapport aux animaux, par exemple, ça c'est une erreur d'opposer les deux. Voilà. Mais je suis plutôt agnostique sur le sujet parce que je ne pense pas que l'Écriture nous donne assez d'indices pour savoir. Ça peut remonter à très très ancien tout cela, c'est tout à fait possible. C'est écrit en hébreu du premier millénaire, donc même si c'est ancien, ça a été retraduit en hébreu de l'époque royale, mais en fait je ne pense pas qu'on en sache plus. De toute manière, il me semble qu'on a des allusions chez Ésaïe et chez Ézéchiel au début de la Genèse, spécialement Ézéchiel 28. Contrairement à ce que certains pensent, une étude de l'hébreu, du grec, conduit plutôt à penser que Ézéchiel connaissait le texte tel que nous l'avons, même s'il se sentait libre à l'égard du symbolisme. Voilà.
Merci. La prochaine conférence nous sera apportée par Marc Godineau sur les découvertes paléontologiques des origines humaines. Donc Marc Godineau est directeur du laboratoire Évolution des primates à l'École pratique des hautes études, engagé dans le réseau Blaise Pascal. C'est vrai que nous n'avons pas trouvé de spécialiste évangélique de ces questions, donc nous avons fait appel à notre ami catholique, donc engagé dans le réseau Blaise Pascal et aussi qui réfléchit aux questions d'articulation entre création et évolution depuis un certain temps. Depuis longtemps, en fait. Marc Godineau m'a fait l'honneur de m'inviter une fois donc, au muséum et dans son laboratoire. Et il m'a montré, dans cette visite du muséum, la main du singe qu'il a décrit, et si mes souvenirs sont justes, qui a occupé 10 ans de ta vie pour la décrire. Alors, très modestement, il nous a dit qu'il n'était pas spécialiste des origines de l'humanité, mais plutôt des singes préhistoriques vers 50 millions d'années, je crois. Mais c'est clair que Marc donc, est tout à fait compétent dans sa fonction de paléontologue de nous parler aussi donc, de l'origine de l'humanité.
Merci Lydia, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour cette journée de réflexion. J'ai conçu ma conférence plus comme un commentaire d'images, et j'en ai un peu trop, je vous prie de m'excuser à l'avance. C'est vrai que j'étais un peu mal à l'aise parce que le domaine scientifique à couvrir est trop grand. Alors j'espère que ça ne va pas vous assommer de voir passer un peu trop d'images, mais c'est aussi pour faire sentir que derrière il y a beaucoup de matériel et que je vais être obligé de résumer des choses qui sont faites par beaucoup de gens différents, par des tas de disciplines différentes. Mais on va essayer quand même. Donc voilà le plan que je vais faire. Le début, je vais le faire rapidement, pour un peu à titre de rappel. Alors je peux vous allez passer les premières assez vite. Hein. Donc la première rappelle que nous sommes des hominoïdes. Donc pour la zoologie, nous appartenons à un clade dans lequel il y a 4 genres actuels et nous. Sur la suivante, je rappelle très vite qu'il y a toute une histoire de ces hominoïdes anciens qui remonte et qui est assez bien illustrée sur la diapositive suivante par un fossile assez célèbre qui est le proconsul. Voilà, toujours quand on fait des histoires des hominidés dans un sens large, on remonte à ce proconsul qui est devenu toute une famille sur la diapositive suivante qui sont dans le Miocène du Kenya, donc dans les 18 millions d'années par là. Sur la suivante, je vous montre simplement que cette histoire d'hominoïde, elle est complétée à gauche du côté des ancêtres des orang-outans en Asie, avec l'Uranopithèque de Grèce, entre autres, qui est le sujet de nombreuses études, de nombreux débats. Et je saute tout de suite sur la diapo suivante à ce qu'on appelle le clade africain, c'est-à-dire ça va être tous ceux qui sont apparentés, chimpanzés, gorilles et nous. Et alors là, ça devient assez souvent, quand on regarde les revues, ça, on, on s'approche de la folie médiatique. Quand il y a des découvertes nouvelles, c'est à qui la couverture de Science, la couverture de Nature, tout le monde veut faire des articles, c'est la révolution partout, et les gens deviennent fous avec ça. D'ailleurs, il y avait dans le bas de la diapo deux couvertures de revues datant de fin 2011 et de janvier 2012, avec notre origine et je ne sais pas quoi. Voilà, bon, celle-là, on va la passer. Il y a eu des controverses qui sont assez intéressantes, assez amusantes, mais qui n'ont pas toujours été très, très honnêtes, sur, pour l'origine de la Wikipédie, je ne sais pas, ceux d'entre vous ont peut-être entendu les controverses avec Brunet, qui a découvert Toumaï au Tchad, qui a voulu absolument faire un hominidé bipède. On n'en sait rien parce qu'on n'a pas les os des membres. Et puis Brigitte Senu, ma collègue avec qui je travaille, j'enseigne beaucoup, on se complète, qui, elle, a décrit Aurorine, qui est sur la diapo suivante, et sur lequel le fémur dit qu'il était probablement bipède. Mais, bon, je vais passer rapidement. Il y a là des controverses qui sont tout à fait intéressantes, mais là, on n'a pas encore beaucoup de matériel et on est dans les 6-7 millions d'années au moment où on aimerait savoir un peu où vont se brancher les chimpanzés, où vont se brancher nos ancêtres à nous. Et là, il y a des hypothèses sur les branchements possibles. Ça, c'est comme ça que Brigitte Senu voit les choses. Bon, nous, on va sauter tout de suite aux australopithèques, qui quand même deviennent intéressants parce que c'est les premiers bipèdes, et c'est à partir des australopithèques qu'on décrit l'origine de ceux qu'on va appeler du nom de Homo, mais Homo va être un terme de nomenclature zoologique, simplement pour nommer une espèce. On donne un nom de genre, un nom d'espèce. Alors pour le cheval, c'est Equus caballus, et puis un zèbre, ça va être Equus zebra, etc. Donc on peut mettre beaucoup d'espèces dans un genre, et Homo, ça, c'est un nom de genre de catégories zoologiques, de taxonomie, et c'est tout, surtout pour les homos anciens. Alors, quand on découvre des australopithèques et des fossiles plus anciens appartenant à ce groupe-là, c'est tout de suite beaucoup l'excitation. Sur la diapositive suivante, je vais vous montrer le schéma, voilà, un des schémas possibles auxquels on arrive, qui indique assez bien que chez les australopithèques eux-mêmes, on a probablement deux groupes. On a des groupes des robustes, des graciles, et puis on a la lignée originaire de l'homme qui vient se brancher sûrement quelque part au milieu des australopithèques. Les australopithèques, c'est déjà assez compliqué. On en décrit des espèces nouvelles. Et en fait, dans les deux dernières années, il y a à la fois une nouvelle espèce qui a été décrite et puis il y a un squelette beaucoup plus complet qui est progressivement sorti par M. Ron Clark en Afrique du Sud d'une brèche très, très dure. Donc, il met beaucoup de temps à le sortir. Mais on va avoir des mains et des pieds en connexion complet. Alors, ça va être la grande excitation. Ça va être la grande excitation parce que sur deux diapositives suivantes, alors les australopithèques, voilà, ont été décrits d'abord par le crâne trouvé à Tong en Afrique du Sud dans les années 1930. Et puis sur la diapositive suivante, je vous montre le squelette de la fameuse Lucie. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on lui donne un petit nom de Lucie que c'était une petite dame. Non, c'est un. Si on la trouvait, on la mettrait dans un zoo. C'est un australopithèque. Et par contre, en avoir un squelette assez complet et intéressant, et à l'époque où on discutait ces adaptations, c'était vraiment sensationnel parce qu'il y avait deux écoles d'anatomie très très sophistiquées, une qui insistait plus sur le côté bipède de l'animal et l'autre qui insistait plus sur le côté arboricole. C'est difficile, mais en fait c'était comme l'évolution s'y prend quand il faut passer d'une adaptation à une autre, on était passé par une étape intermédiaire où on est adapté aux deux. Aux deux milieux de vie à la fois. Alors bon, j'ai pas le temps de parler beaucoup de Lucie et des autres australopithèques, parce que sinon c'est les hommes qui vont trinquer. Quand même, sur trois diapositives, je vais montrer assez vite que cette idée qu'on peut passer, alors en faisant un raccourci très, très considérable, d'une structure de chimpanzé à une structure d'australopithèque et à une structure humaine est illustrée sur les diapositives suivantes qui proviennent de manuels, hein, c'est de textbooks. Alors vous avez ici par exemple sur les crânes, vous voyez assez bien ce qui se passe. Je ne vais pas prendre le temps de décrire trop tout ça, mais vous voyez le crâne se raccourcit. Il y a surtout une augmentation du volume cérébral. Et puis le crâne s'arrondit progressivement, donc les superstructures, se raccourcissent, et puis les dents diminuent, la face à la fois se rétracte un peu sous le crâne et diminue progressivement d'importance. Sur la diapositive suivante, on explique un peu que qu'au point de vue de la bipédie, c'est tout à fait intéressant ce qui se passe, et en particulier, vous avez une énorme différence de structure dans le bassin à gauche, qui est un bassin de type chimpanzé, gorille, etc., et le bassin d'un australopithèque qui est au milieu. Alors ça, c'est une différence très considérable. Dans les trajectoires de croissance, ils sont différents, et donc moi, j'attends avec impatience le bassin d'Aurorine et le bassin de Toumaï pour savoir comment on est arrivé à ça. Et puis sur le pied, il y a une évolution pareille aussi. Les chimpanzés ont encore un pied de primate avec un gros orteil opposé aux autres doigts, un pied d'arboricole grimpeur. Et puis quand ils sont redevenus bipèdes, le gros orteil s'est recollé progressivement au pied pour aller vers un pied comme le nôtre. Ça s'est pas fait tout seul. Alors c'est raccourcir en trois vues une histoire de 6 à 8 millions d'années. Donc on est quand même à un regard très, très, très lointain. Sur la diapositive suivante, je mentionne rapidement qu'on découvre des nouvelles espèces d'australopithèques et que donc l'histoire des australopithèques elle-même se complexifie. Et il y a une nouvelle espèce décrite l'année dernière que je n'ai même pas mis là-dedans. On avait déjà sur le schéma d'un monsieur David Strait qui est sur la droite, un schéma assez complexe concernant les espèces d'australopithèques les unes par rapport aux autres. Mais voilà, on va sauter tout de suite à la diapositive suivante et aux fossiles du genre Homo, parce que voilà, on va se rapprocher quand même de notre sujet, qui peut être présenté, comme sur la diapositive de gauche, à nouveau d'une façon très simplifiée. Si on regarde simplement la ligne qui conduit vers nous, on va pouvoir y mettre des grandes étapes qui sont ici de haut en bas, au lieu d'être de bas en haut, avec là-haut, c'est un australopithèque, et puis on peut résumer parfois, c'est pas totalement faux, mais c'est à nouveau un résumé très 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 condensé, si on distingue trois étapes, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Bon, on peut faire ça, mais il faut être conscient qu'on fait un résumé très très résumé des choses, alors que le schéma qui est sur la droite, qui est un schéma de Tattersall, est plus exact et vous montre qu'on n'a pas trois espèces d'hommes sur ce schéma-là. À partir d'un australopithèque qui était proche de l'Australopithecus africanus, on a Homo habilis d'un côté, peut-être un autre Homo rudolfensis en Afrique, l'Homo ergaster qui serait encore en Afrique, et puis on a une dichotomie avec l'Homo erectus qui devient des vrais Homo erectus en Asie, des équivalents qui restent en Afrique, en Europe, et puis une espèce ancestrale à la fois aux sapiens et aux hommes de Néandertal. Alors on va suivre ça un peu plus en détail. Sur la suivante, je montre rapidement Homo habilis, qui est quand même encore assez distinct de nous, assez petit, dont le pied qui est là, il est célèbre, il s'appelle Washuit, mais il y a toute une littérature dessus. Et on a hésité de temps en temps pour savoir, mais est-ce qu'on met ça dans le genre Homo, ou bien est-ce qu'on ne s'est pas trompé, est-ce que ce n'est pas un pied d'Australopithèque? Alors ça va être très intéressant d'avoir des Australopithèques plus complets pour mieux interpréter celui-là, qui appartient à un bipède, mais dont le pied n'a pas encore exactement les appuis comme les nôtres. Il n'a peut-être probablement pas encore l'arche antéro-postérieure qu'on a sous le pied. La capacité endocrânienne n'est pas encore très très grande non plus. Je ne sais plus de combien elle est, ça n'a pas d'importance. Donc Homo habilis, on n'en a pas beaucoup de fossiles en Afrique. Alors on a ce crâne assez complet dont la reconstitution a fait couler de l'encre parce qu'elle avait été, elle a été difficile à faire. Il y a un peu plus de matériel que ça. Et en fait, on pense, d'après d'autres petits os des membres, qui devait être encore en partie un peu arboricole. Donc on l'appelle Homo habilis, mais il n'est pas encore totalement bipède comme nous et ne marche pas autant au sol. Alors après l'Homo habilis, il y a tout un groupe qu'on peut appeler parfois Homo erectus au sens large. Alors les Homo erectus ont été nommés ainsi, c'est ça qui avait été à la fin du 19e, le pithécanthrope de Java. Le fameux pithécanthrope de Java, on l'appelle depuis Homo erectus, et c'est un peu le type de toute une nappe de fossiles humains, mais qui ont des crânes de forme assez particulière, vous voyez, allongés d'avant en arrière. Il y a encore un peu une visière, une constriction en arrière de la visière, La question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut mettre sous le nom d'une seule et même espèce des formes proches de ces erectus qui sont en Asie et en Afrique, sachant qu'en Asie, ils persistent beaucoup plus longtemps, et puis il y a des petites différences de ces gisements de Java. Et sur la diapositive suivante, vous allez voir quelque chose qui ressemble beaucoup, mais qui là est trouvé en Afrique et qu'on attribue, alors soit un Homo erectus, et puis si on estime qu'il faut les distinguer, on va appeler ça un Homo rudolfensis ou un Homo ergaster, je ne sais pas. Alors j'ai une autre diapositive suivante qui montre à nouveau la comparaison entre un fossile asiatique et un fossile africain, qu'on va appeler de ce groupe erectus, et puis selon les spécialistes, on distinguera la forme africaine sous le nom de Homo ergaster au moins, ou non. Alors, cela devient déjà plus intéressant. On verra tout à l'heure, j'ai séparé la partie culturelle, parce que la partie culturelle, c'est jamais exactement les mêmes gisements, et puis vers la fin, ça ne se recouvre pas avec les taxons fossiles, et puis les problèmes sont un peu différents. Sur la diapositive suivante, ça compare, ici voilà, il y a un Homo erectus africain, donc qui est un fossile assez bien conservé, qui provient de Koubifora au Kenya, et qui est comparé avec l'homme de Pékin, en bas à droite, le fameux synanthrope. On a perdu les originaux, ils ont été perdus pendant la guerre, mais le synanthrope, il avait été très très bien décrit, il y avait plusieurs crânes de trouver, et par chance, il y avait une monographie magnifique de Franz Weidenreich, qui fait qu'on avait des descriptions, on avait même de bons moulages des fossiles. Alors le synanthrope, on va dire que c'est 400 000 ans à peu près, et vous voyez, là morphologiquement, c'est proche, ils sont très très proches, donc on aurait envie de les laisser sous une même dénomination, Homo erectus au sens large. Alors sur la diapositive suivante, il y a un squelette, alors là on a un très beau squelette, qui est de Nario Kotome, on a appelé ça il y a une trentaine d'années, il y a une magnifique monographie publiée à Harvard là-dessus. C'est un jeune individu, mais trouver exactement son âge est l'objet aussi de toute une difficile estimation, parce qu'on n'est pas sûr que leur croissance, leur vitesse d'éruption des dents, etc., soient les mêmes que les nôtres, donc il y a des petites controverses pour savoir quel âge il avait. Globalement, quand on a étudié ce squelette qui a quand même 1,5 million d'années, ils ont trouvé qu'il marchait comme nous, qu'il avait même une stature assez grande. Ils le comparaient à ceux qui ont des statures élancées en Afrique. C'est peut-être pas si simple que ça. J'ai entendu une Américaine il y a quelques semaines dire que peut-être que dans la reconstitution du bassin, ils se sont aidés un petit peu trop des bassins actuels et peut-être que le bassin était un peu plus large. Si c'est vrai que les bassins d'Homo erectus étaient un petit peu plus larges que la façon dont on a reconstitué celui-là, ça serait très intéressant parce que ça montrerait encore, ça montrerait une évolution qu'une bipédie, j'allais dire, de type tout à fait moderne comme la nôtre, existait sûrement chez celui-là, quand on regarde la structure du genou ou du pied, mais qui avait encore aussi des caractères primitifs associés et un bassin qui n'avait pas complètement suivi. Bon. La diapositive suivante va vous montrer ce qui a été la grande discussion chez les paléontologues et anthropologues pendant 20 à 30 ans. Pendant 20 à 30 ans, on s'est demandé, est-ce qu'on est passé en Europe, en Afrique et en Asie des erectus aux sapiens, en parallèle sur les trois continents, ce qui aurait été un peu étonnant, mais qui impliquait à ce moment-là peut-être que les populations étaient restées interfécondes, c'est le schéma qui est à gauche, ou bien est-ce qu'il fallait envisager un modèle qui était une origine récente en Afrique, qui est le modèle qui est indiqué à droite. Parce que sachant qu'en Asie, il y a des Homo erectus qui durent très très longtemps, et puis les Chinois avaient très envie de descendre du synanthrope. Et c'est vrai que, et curieusement, on trouvait sur le synanthrope quelques petits caractères des dents qu'on ne trouve que dans les populations asiatiques actuelles. Alors ça, c'était quand même très, très, très curieux. Néanmoins, on est passé non seulement au schéma de droite, mais même à quelque chose d'encore un peu plus compliqué, avec peut-être trois sorties d'Afrique. Il y en aurait une troisième au milieu, dont on va parler tout à l'heure, et qui serait les pré-sapiens, pré-néandertal, qui serait sorti déjà d'Afrique pour donner les deux groupes qui se différencient plus tard. Donc on se retrouve avec des schémas qui sont un peu embarrassants au point de vue de la nomenclature. Et c'est embarrassant pour vous autant que pour moi. C'est sur la diapositive suivante, vous voyez, les hypothèses concernant les parentés entre ces espèces humaines, enfin ces espèces d'homo auxquelles on donne un nom, voilà, les différentes hypothèses possibles sont assez bien résumées ici sur les schémas de gauche, tout en étant simple. Il y a des gens qui en voient encore un beaucoup plus grand nombre. Mais on va rester quand même avec ceux qui ont une vision suffisamment simple. Ici, il part d'Homo erectus, hein, c'est le trait continu, et il passe ensuite à ce que de plus en plus on appelle Homo heidelbergensis. Et Homo heidelbergensis, vous verrez tout à l'heure la mâchoire de Maurer, ces formes qu'on appelait pendant longtemps des archaïques, soit sapiens archaïques, soit néandertal archaïques, maintenant on leur donne, on tend de plus en plus à leur donner ce nom, Homo heidelbergensis, et ils sont très proches, que ce soit des pré-néandertals ou des pré-sapiens, ils sont très proches et on a l'impression que c'est peut-être une nouvelle, une seconde sortie d'Afrique. Mais vous voyez qu'on peut avoir... Alors l'hypothèse serait peut-être que soit une seule espèce heidelbergensis africaine et européenne pourrait être à l'origine à la fois des sapiens et des néandertals, qui sont considérés comme deux espèces bien, bien différentes ici, ou bien sur le schéma de droite, on peut se demander si on ne devrait pas isoler les formes africaines sous forme d'un homme de Rhodésie, Homo rhodésiensis, apparenté à l'origine des vrais sapiens, et puis restreindre les Homo heidelbergensis à ces formes européennes anciennes qui sont à l'origine des hommes de Néandertal. Ce qu'il y a derrière comme schéma, sur la droite, alors moi je pensais qu'il y aurait un grand écran ici, alors vous ne devez pas voir grand-chose, de loin je pensais qu'on aurait un très grand écran pour montrer les schémas, mais sur la droite vous voyez que des spécialistes qui étudient la morphologie peuvent aussi être tentés d'avoir une vision beaucoup plus continuiste de l'évolution morphologique, et finalement on ne va pas... Le problème de délimiter les taxons, bah pour les paléontologues, en fait, quand il y a des trous dans la documentation, c'est très commode parce que ça nous fait des discontinuités qui justifient un peu des noms différents pour les espèces, alors que quand on accumule beaucoup de matériel, on se trouve de plus en plus vers des continuités, et les continuités, c'est très difficile de décrire les changements et comment les traduire dans la nomenclature. Alors, je vais vous montrer sur quel type de matériel sont basées ces discussions. On va passer assez vite sur une série de crânes parce que vous voyez qu'il y a quand même du matériel derrière. Le crâne de Steinheim en Allemagne à gauche est comparé au crâne et à la mandibule qui sont trouvés à l'Arago. Hein, peut-être que certains d'entre vous ont été au musée de Totavel dans la région de Perpignan où on a trouvé les fossiles de l'Arago. Alors, il serait assez normal maintenant de l'appeler heidelbergensis, je pense, étant donné les tendances de la nomenclature. Sur la diapositive suivante, vous allez voir la mâchoire de Maurer. C'est ça qui avait été trouvé en premier et qu'on a appelé, à laquelle on a donné le nom de Homo heidelbergensis. Elle a environ 500 000 ans. Et alors, c'était pendant longtemps le fossile le plus ancien d'hominidé en Europe. Et on voit bien par sa morphologie que ce n'est pas pareil que nous. Il n'y a pas de menton là-dessus. C'est très robuste, très, très, très arrondi. Et il y a quand même des différences avec les Homo erectus. Donc, ça tombe assez bien dans ce qu'on nomme maintenant des heidelbergensis. Sur la diapositive suivante, vous allez voir un des crânes d'Atapuerca. Alors, ces découvertes faites en Espagne, à Atapuerca, sont sensationnelles. Et malheureusement, comme ce n'est pas trouvé en France, nos journalistes nous les montrent à peu près jamais. Il n'y a personne au Collège de France ou à l'Académie des sciences pour parler de ces choses-là, donc on ne les connaît pas. Mais ce qu'on a trouvé à Atapuerca, c'est 10 fois plus complet et 10 fois plus intéressant que Totavel plus Steinheim réunis, parce qu'on a trouvé des quantités, des séries de crânes complets, des os des membres, les industries avec, et puis il y a une cima de los huesos qui est très ancienne, et puis il y a un autre gisement, Grande Dolina, plus récent, avec beaucoup de matériel, et les Espagnols ont fait des études sensationnelles là-dessus. Alors, ce qu'ils ont trouvé dans la période 400-600 000 ans, c'est ça qui a amené un peu ce consensus à nommer une espèce heidelbergensis pour quelque chose qui, clairement, est en train d'évoluer vers les hommes de Néandertal. Alors, un de ces jours, on va avoir un musée sensationnel à Burgos, à 200 mètres de la cathédrale de Burgos. Il va y avoir un grand musée des origines de l'homme où ils vont mettre en avant tout ça. Et ça va valoir le déplacement, je peux vous dire, parce qu'ils ont des fossiles très, très beaux. Je suis un peu honteux vis-à-vis des Espagnols de ne montrer qu'un crâne, parce que là, ils en ont une série. Et ils ont un très, très beau matériel. Ça justifie bien cette image d'un homo heidelbergensis en Europe, un archaïque, mais dont on voit qu'il est orienté vers l'homme de Néandertal, qui est une forme européenne, qui aura son acmé pendant la période glaciaire, et puis à la fin de la glaciation, qui va disparaître, être remplacé par les autres. Alors, sur la diapositive suivante, j'ai d'autres heidelbergensis, il n'y en a pas qu'en Espagne, il y a un crâne de Grèce, un crâne d'Italie, bon, pour les spécialistes, on va discuter ces différents crânes, ça fait quand même du matériel, et puis c'est des choses dont on voit que c'est déjà un peu moderne, si on leur enlevait la grosse visière, on voit des crânes assez humains. Donc tout ça va être des pré-néandertaliens, qui visiblement évoluent vers les hommes de Néandertal proprement dit, dont il y a un... voilà. Le plus célèbre, c'était... c'est pas l'homme de la chapelle aux saints, celui-là, c'est la Ferracie. C'est en France qu'on a eu les squelettes les plus complets d'hommes de Néandertal. Sur la diapositive suivante, j'en ai mis trois crânes. Voilà, Sacco Pastore, ça doit être en Italie, je suppose. La Ferracie, c'est en France. À Maud, ils vont jusqu'en Israël, jusqu'au Moyen-Orient, et même un peu plus loin, presque jusqu'au Caucase. En tout cas, les hommes de Néandertal. Et puis, il y a une proximité entre des sapiens proches de nous et des Néandertal aux alentours de 100 000 ans au Moyen-Orient. Alors, la question qui est débattue, alors je ne sais pas si on va en discuter tout à l'heure avec Nicolas Rey, parce que maintenant, à partir des molécules, les gens vous disent qu'il y aurait eu des échanges génétiques avec les hommes de Néandertal. Ça fait sauter en l'air les gens comme moi qui font de la morphologie, parce que sur la diapositive suivante, vous allez voir quand même les différences de morphologie entre nous, entre notre crâne de sapiens moderne et les hommes de Néandertal, c'est quand même assez considérable. Alors, et en fait, un homme de Néandertal, c'est le milieu à gauche, d'une certaine façon, ça a l'air d'être un petit peu plus dans le prolongement, au point de vue des caractères, dans le prolongement d'un homo erectus, que d'être exactement comme nous. Et sur celle de droite, il y a aussi une comparaison qui fait ressortir un peu que, avec des points, il y a un point de triangle dans la face, sur celui de gauche. Alors, c'est pas très évident sur la droite, mais sur la droite, ces mêmes points chez l'homme, ils sont rassemblés presque à la verticale, ce qui montre assez bien un raccourcissement de la face entre les hommes de Néandertal et nous. Et puis, il y a des différences dans la région du nez, dans l'épine nasale, etc. À quoi auraient bien pu ressembler des hybrides entre des choses aussi différentes, je ne sais pas. Est-ce que c'est là que j'ai discuté le... Voilà. C'est quand même quelque chose de très discuté en ce moment. Est-ce que les molécules vont nous obliger à repenser les choses un peu différemment? Ça nous arrive de temps en temps, les paléontologues. Parce que dans un premier temps, on a considéré que ces hommes de Néandertal, ils étaient très à part. Et puis ensuite, quand on s'est aperçu que là où ils sont les auteurs d'une industrie moustérienne, et puis ils sont aussi parmi les premiers à enterrer leurs morts. Alors, à une époque, on s'est dit, mais c'est pas possible, si c'est des hommes qui enterrent leurs morts, on ne peut pas en faire une espèce différente de la nôtre, et on va en faire une sous-espèce, comme une espèce de race un peu extrême. Et puis, en revenant à la morphologie, et même les études quantitatives de morphologie montrent des différences qui sont des grosses différences. Si on fait des schémas avec de la morphométrie quantitative et qu'on compare les différences morphologiques entre des espèces de primates actuelles et puis la différence entre l'homme de Néandertal et nous, mais l'homme de Néandertal apparaît très différent. Bon, est-ce que c'est la réponse définitive? Après tout, il pourrait y avoir aussi des différences qui ne soient que des hétérochronies et qui, génétiquement, ne soient pas énormes. Moi, je serais quand même assez sceptique. Pour l'instant, je reste assez sceptique sur l'idée qu'il y aurait beaucoup de matériel génétique en commun entre les hommes de Néandertal et nous qui manifestent une parenté toute récente, si vous voulez. Bon, on a le même Heidelbergensis, c'est le même pour tout le monde de 100 000 ans avant, donc qu'il y ait plein de gènes en commun, ça c'est normal. Hein. Mais après ça, quand on nous parle d'hybridisation et d'introgression, ça me paraît difficile à... C'est à discuter, et puis c'est à discuter par des spécialistes qui connaissent mieux qu'est-ce qu'on a le droit de dire à partir de ces molécules et de ces gènes. Bon, je passe là-dessus. On va passer encore celle-là. Voilà. Et ici, ça c'est le schéma qu'il y avait dans le numéro que j'ai montré. Le numéro des Italiens, on reparlait de cet Thomas Heidelbergensis. Donc ici, il remontre assez bien qu'il y a peut-être une nouvelle sortie d'Afrique pour ces hommes qu'on a appelés pendant longtemps des hommes archaïques. Ici, on fait apparaître deux choses aussi que je ne peux pas discuter, hein, parce que je n'ai pas le temps. Mais les fameux hommes de Flores, trouvés sur l'île de Flores, à nouveau, c'est une discussion scientifique vraiment jolie, parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais c'est des erectus, ou si ce n'est des choses plus primitives qui sont arrivées sur l'île et qui sont restées sur l'île, pour avoir leur caractère, être petits et tout bizarre comme on les trouve. Et il y en a d'autres qui ont dit, mais non, c'est de la pathologie, c'est une population tellement isolés sur son île, qu'ils ont développé des pathologies dues à l'inbreeding, enfin, le, je ne sais plus comment on dit ça en français, peu importe. Oui, voilà, des problèmes de consanguinité. Alors, il y a une grosse controverse qui s'est poursuivie dans les plus grandes revues pour dire est-ce que c'est de la pathologie de consanguinité ou bien est-ce que c'est des petits fossiles isolés depuis longtemps sur cette île. Bon, c'est peut-être l'hypothèse isolé depuis assez longtemps sur l'île, qu'il tient le mieux la route. Mais il faut savoir que c'est discuté d'une façon profonde et pas évidente. Et c'est extrêmement intéressant comme discussion. Alors, il y a ces hommes de Flores, et puis il y a l'homme de Denisova aussi, trouvé il n'y a pas longtemps. Et alors là, ça nous vient uniquement des molécules de la génétique. On trouve une phalange et une dent quelque part en Sibérie, qui ne sont pas très anciens, et ils disent, ah, ça ne sont pas des hommes comme nous, et ça serait peut-être une parenté avec les Néandertals. Bon, je suis très surpris et sceptique, mais ce n'est pas impossible. On sait que les hommes erectus et que aussi des Heidelbergensis ont survécu plus longtemps dans l'Est de l'Asie. Donc c'est peut-être aussi une population comme celle-là. Alors, sur les diapositives suivantes, par contre, je vais vous montrer tous les progrès qui ont été faits dans les découvertes en Afrique. Parce que c'est en Afrique que, finalement, c'est d'Afrique que sortent les sapiens modernes, les sapiens comme nous. Alors, je vais... ça, c'est peut-être ce qui a le plus avancé dans les 10 ou 15 dernières années, parce qu'il y a beaucoup de financements américains qui arrivent, il y a une grande excitation internationale à faire des fouilles en Afrique. Mais sur cette période plus récente, qui avait été un peu négligée au profit des trucs un peu sensationnels plus anciens. Alors voilà tous les gisements dont il s'agit. Et je vais vous montrer sur quelques diapositives les crânes qui ont été sortis. Alors Bodo, Soldana, Doutou, la Tanzanie, un petit peu partout en Afrique. J'en ai sur plusieurs diapositives. Hein. Les deux diapositives suivantes montrent des crânes comme ça, plus ou moins complets. Et qui se termine par ceux qui tout à coup ont l'air très très modernes et qu'on a envie d'appeler des sapiens. Alors, pas tout à fait comme nous, mais quand même là des sapiens et plus des archaïques. Et il y a un groupe qui a été trouvé, il y a un très beau crâne qui a été trouvé donc en 2003 dans la formation de Bouri en Éthiopie. Et là, voilà des crânes qui sont à peu près exactement comme nous, hein, entre 150 et 160 000 ans. Donc, en Afrique, c'est vraiment d'Afrique que sortent les sapiens modernes comme nous, et il y a des morphologies toutes proches, il y a 150 à 160 000 ans. Ça fait vieux, hein. Bon, sur la diapositive suivante, à droite, y aurait ici tous les fossiles africains qui concernent la succession de vrais Homo erectus en bas, d'archaïques qu'on appellerait maintenant des Heidelbergensis, et puis de late archaïques Homo sapiens, et puis d'Homo sapiens comme nous. Et donc, vous voyez, ça fait une continuité des gisements assez grande. Alors, évidemment, tous les fossiles ne sont pas complets. J'avais deux diapositives après, mais je ne sais pas si je vais pas avoir le temps quand même de les commenter en détail. Je me rappelle plus. Il faut que je m'arrête avant 11h. Hein. Ouais, j'ai pas parlé des choses culturelles. Alors bon, tant pis. Je vais passer. Ça, juste avant celle-là, il y avait quelque chose quand même sur quoi je voulais dire quelque chose. C'est que ici. Bon, ils décrivent en gros le passage de ceux qui sont presque modernes à ceux qui sont quasiment modernes. Mais ce qui m'a très frappé en faisant cette mise à jour un peu de mes connaissances, c'est que quand on fait une morphométrie détaillée de crâne assez complet, mais même les sapiens qui ont 30 à 40 000 ans, on ne les trouve pas exactement comme nous. Ils diffèrent statistiquement. Donc ça m'a beaucoup frappé parce que finalement, on sent que l'évolution elle est continue. C'est toujours en changement, mais et si on a des techniques de morphométrie très, très précises, eh bien on va arriver à montrer que même entre 30 000 ans et nous, ça a continué à changer morphologiquement. Ça m'a beaucoup frappé. Alors je vais sauter aux choses culturelles tout de suite. Donc il y a plusieurs diapositives. Voilà, attendez, ici on s'est demandé, il est possible que le facteur principal de la changement de forme du crâne soit l'augmentation du volume cérébral. Et l'augmentation du volume cérébral, sur la suivante, on pouvait se demander si on fait des moyennes par espèce, si ça avait été par saut ou par continu. Et en fait, il y a un travail extrêmement intéressant fait par Reitmeier en 2004 sur la droite, où il a repris uniquement des crânes bien datés et où il a repris les évaluations de capacité endocrânienne qu'il a mis au cours du temps, et on voit qu'il y a quand même une tendance graduelle. En partant de 1,8 million d'années jusque vers 200 000 ans, on voit vraiment une tendance très graduelle avec de la variabilité chez les Homo erectus ou les Heidelbergensis au sens large. Ça donne quand même une image d'évolution graduelle assez forte, je trouve. Voilà, alors on va sauter après ensuite à la... On passe aux données culturelles. Sur les... Classiquement, on a ce qu'on appelle des cultures sur galets, en bas, la pebble culture, holdowayen, et puis à partir de 2 millions d'années, on va se trouver avec l'aquelaïen, les industries à biface. Sur la diapositive suivante, j'ai mis un petit rappel de toutes les disciplines qui sont mises en jeu par ces études sur l'environnement de ces hommes. Bon, c'est pour ça que j'étais un peu embarrassé de faire, moi tout seul, le survol de tout ça, parce que j'appartiens à des structures d'enseignement dans lesquelles des gens sont spécialisés sur la géologie du quaternaire et les datations, d'autres sur la paléonologie et les environnements, d'autres sont des paléoclimatologues. Mais ce que je veux vous faire sentir là, c'est qu'il y a une intégration de données qui proviennent de toute une série de disciplines différentes, et que le top, c'est que finalement, on arrive à relier les glaciaires interglaciaires à une histoire climatique comprise par les paramètres astronomiques. Et quand on projette ces paramètres astronomiques dans le passé pour les oscillations climatiques, on arrive à avoir des datations d'une précision qui était totalement inespérée pour une partie de la géologie il y a 20 ans. On est en train de recalibrer les échelles temporelles en se fixant sur des échelles astronomiques. C'est absolument incroyable. Et c'est l'histoire, l'évolution du climat qui nous permet ça. Alors je saute quand même sur la suivante. Je vous remontre cette pebble culture. Pourquoi ? On a souvent considéré que c'était les premières étapes de l'évolution humaine, et Hélène Roche et d'autres qui étudiaient ces plus anciennes industries en Afrique avaient insisté, mais il n'y a pas très longtemps, il y a 10 ans, en trouvant des zones où on cassait ces outils, en disant mais ça c'est une technologie très supérieure quand même à celle des chimpanzés. Et puis finalement, c'est très discuté. Et là, je suis tombé sur une belle étude qui a un ou deux ans, dans laquelle les gens disent non, la pebble culture, c'est le niveau culturel des grands singes actuels. C'est pas plus. Alors bon, on pourrait en discuter un peu, si vous voulez. Alors ça met en jeu des gens qui sont des spécialistes du comportement des primates d'un côté. Et je rappelle rapidement qu'une des choses qui ont le plus bousculer les limites qu'on avait entre l'humain et le non-humain, c'est les travaux aussi sur le comportement des grands singes qui montrent leur capacité cognitive et leur premier degré d'abstraction et leur utilisation d'outils, même de plusieurs outils, et l'apprentissage et les traditions culturelles qu'ils sont capables d'avoir. Donc il y a un consensus qui se dégage, je pense, qui est assez solidement enraciné là sur des bonnes études, qui tend à dire que l'Holdowayen, finalement, c'est le même niveau de capacité cognitive que les grands singes. Ça, c'est quelque chose de récent, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Sur la suivante, je vous rappelle rapidement que ce qu'on appelle l'acheuléen et les industries à biface, ça correspond assez bien avec les Erectus et les Néandertalensis. Et puis alors, je vais sauter rapidement pour simplement vous montrer que, voilà, sauter ça, plus loin, il y a une très belle étude. Voilà, l'étude que je vous présente ici est faite en 2000 par deux Américaines, ou une Américaine et une Anglaise, je ne sais plus, McBrearty et Brooks. On fait une étude qui a marqué, alors on la discute maintenant, on discute beaucoup de ce modèle, mais elles ont fait une étude en Afrique, des gisements africains, et alors peu importe comment elles appellent les fossiles, elles ont bien plus de noms d'espèces de fossiles qu'on utilise habituellement. Mais sur les deux diapositives suivantes, vous allez voir qu'il y a toute une série d'industries trouvées dans cette période 50-200 000 ans en Afrique, qui sont étudiées, qu'on peut comparer, qu'on peut étudier, et elles arrivent au schéma qui est sur la diapositive suivante. Voilà, ça c'est un peu la clé de ce qu'elles ont proposé en disant ce qu'on discute beaucoup, c'est l'origine du comportement humain moderne, modern human behavior. Alors qu'on va avoir, nous, à partir de 40-50 000 ans, une fois que les gens font des peintures dans les cavernes, ont des parures, etc. Et en Afrique, dans le registre fossile africain, elles cherchaient, est-ce qu'à un moment, il y aurait un seuil, il y aurait un moment où il y aurait beaucoup d'inventions comportementales qui permettraient de dire, bon, on va dire que ce sont des hommes proches de nous. Et dans le schéma développé par ces deux collègues, qui sont très remarquables, vous voyez que à partir de 280 000 ans, on trouve des lames, puis des grindstones, des meules, l'utilisation de pigments, donc c'est vieux quand même, hein, l'utilisation de pointes depuis 250 000 ans, et puis alors à partir de 140 000, on voit apparaître l'utilisation de la récolte de coquillages, des échanges à longue distance. Alors vous imaginez, pour voir des échanges à longue distance, il faut avoir étudié très bien un gisement et puis montrer que les outils, forcément, viennent de loin. La pêche, beaucoup de pêche aussi, à partir de, vous voyez, entre 120 et 100 000 ans, la pêche. Ensuite, vous avez aussi une petite série de nouveautés qui sont des outils en os, des pointes barbelées, des outils de mining pour aller chercher les silex, pour attaquer la roche, pour se procurer des outils. Et puis l'utilisation de pièces incisées dont on pense qu'elles étaient utilisées pour des sortes de notations. Vous voyez, ça apparaît entre 100 000 et 90 000. Et puis ensuite, les microlithes, et puis les images et des petites parures typiques qui apparaissent après. Alors, elles, leur conclusion, c'était qu'elles étaient en faveur d'un homme quasiment comme nous aux alentours de 200 000 ans. Ça continue à être très discuté parce que ce qui est plus consensuel, c'est quand même plutôt vers 50 000 ans. Et ce qui est typique, c'est ce qu'on appelle le paléolithique en Europe. Donc voilà, j'ai une diapositive encore qui va vous montrer quelque chose de marrant sur le paléolithique. Suivante. Ces industries du paléolithique, elles ont permis aux gens qui font de la typologie de se faire des typologies et de faire des successions d'industries. Mais ce qu'on fait de plus en plus, c'est ce qui apparaît sur la diapositive suivante, les gens arrivent sur des sites à recoller au bout d'un outil les éclats, les uns après les autres, et maintenant, au lieu de faire des typologies de ces industries, on s'intéresse vraiment à la technologie, à comment ils ont fait pour produire les outils. Et donc, vous voyez, on est passé à quelque chose qui est beaucoup plus des analyses de technologie, des analyses des stratégies de subsistance et des analyses de techniques de chasse. Donc, on est plus orienté vers les processus cognitifs utilisés par ces populations. On était parti de choses très, très typologiques et on va vers tout ça. Alors, voilà, sur la suivante, j'ai marqué je vous ai montré les choses magnifiques qu'il y a. À partir du moment où il y a la grotte Chauvet et où il y a ce que vous avez à ces animaux de Vogelherde en Allemagne, c'est 30 000 ans, et là, on est sûr que c'est des gens comme nous. Donc, les conclusions, vous voyez, ce que va donner la science, c'est une image de grande continuité. on pourra peut-être discuter, mais si on raisonne là-dessus et si on raisonne sur le côté vie sociale des primates et vie sociale des hommes, c'est difficile de penser à autre chose qu'une histoire de société, qu'une évolution de société, de structure sociale. Un couple devient quelque chose de très impensable pour la science. Et est-ce que j'avais encore une idée importante à dire ? Je ne sais plus. C'est un peu l'image donnée par tous ces progrès un peu fantastiques. Hein. L'origine des sapiens en Afrique, c'est quand même pas des choses anciennes, et c'est des choses qui sont très, très étudiées à l'heure actuelle. Alors, je n'ai même pas été complet avec ça, je n'ai pas parlé des sépultures, c'est à partir de 100 000 ans. Ça peut être discuté aussi. Bon, je m'arrête là, et puis s'il y a des questions ou des choses sur lesquelles on pourra revenir après, mais...